d'être manuel, parce que, au sens où il me semble que là, on a développé, on a déployé un nombre de questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on n'avancera pas tellement maintenant. Et ce que je proposais peut-être, c'est pour renourrir la conversation, peut-être préparer les séances, les deux séances prochaines, donc la séance de Dion Doulis et ensuite la séance de Frédéric Pouillaud. Donc deux séances où la question du corps va être tout à fait essentielle. Ce serait peut-être, je voulais vous proposer de revenir sur Henri Michaud et sur la manière dont on peut repenser la pratique dans sa la pratique et l'opération de détournement critique à partir de la pratique de Michaud. Vous vous souvenez que ce terme de détournement, je l'avais employé à propos de Kant et puis on l'a repris à propos de Baudelaire. Et au fond, finalement, peut-être qu'il pourrait nous servir justement pour... peut-être qu'on pourrait faire une transaction terminologique sur le terme de détournement comme modalité de la critique à la place du terme de résistance. Mais je pense qu'on reviendra sur tout ce qu'on s'est dit. Parce que... Je voudrais préciser, répondre quand même à la question de Florent sur la question de ce que j'appelais le plan de subjectivation second, et introduire la notion de collectif qu'on a repris par la suite. C'est-à-dire d'une subjectivation, d'un mode de subjectivation qui, pour être strictement individuel, n'est pas moins... purement collectif. Ce qui me paraît être peut-être une troisième condition, une deuxième condition. Donc non seulement il faut arriver à bien penser ce qu'il en est d'un mode de subjectivation qui peut-être qui passerait par l'intériorité, mais pour la détourner, d'une certaine façon, pour transformer ce dedans en dehors. Et d'autre part, il faut penser ce qu'il en est de ce mode de subjectivation qui, pour passer très purement par une position subjective, et là je suis tout à fait d'accord avec Manuel, néanmoins, n'est pas du tout finalement en droit distinguable d'un mode de subjectivation collectif. Alors, pour ça, il me semble que Michaud, c'est un exemple paradigmatique, donc pour caractériser ce caractère paradigmatique elle-même de la pratique artistique. Alors, la cause de Michaud, pour reprendre le terme que j'ai employé, et ce pourquoi il me semble qu'on a bien affaire à une pratique artistique dont l'enjeu est bien un enjeu d'émancipation, et bien la cause de Michaud lorsqu'il passe de la poésie au dessin, de l'écriture au dessin, est bien un enjeu de libération. Il dit par exemple né, élevé, instruit dans un milieu et une culture uniquement du verbal, je peins pour me déconditionner, par exemple. Il dit encore, au lieu d'une vision à l'exclusion des autres, j'eusse voulu dessiner les moments qui bout à bout font la vie, donner à voir la phrase intérieure, la phrase sans mots, corde qui indéfiniment se déroule, sinueuse et dans l'intime, accompagne tout ce qui se présente du dehors comme du dedans. Je voulais dessiner la conscience d'exister et l'écoulement du temps, comme on se tâte le pouls, ou encore, en plus restreint, ce qui apparaît lorsque le soir venu repasse en plus court et en sourdine le film impressionné qui a subi le jour. autre manière de définir l'enjeu hein, de ce déconditionnement et de ce déplacement. Hein. Se déconditionner, ça signifie se déplacer, et se déplacer pourquoi ? Pourquoi précisément pour parvenir à dessiner cette phrase sans mots. Hein. Donc on est bien dans l'idée d'une libération à l'égard de ce qu'il appelle une culture uniquement du verbal, cette culture dominée, on va dire, par une certaine pratique de l'écriture, hein, par un certain pouvoir de l'écriture, par une certaine modalité de l'écriture, c'est-à-dire de l'articulation entre discours et écriture, dont la formule, on va dire, la plus concrète est ce qui s'appelle l'alphabétisation. Donc, comment sortir de l'alphabet ? Et comment, quand vous regardez les dessins de Michaud, ce qui est très très frappant, c'est que effectivement, nous ne sommes pas dans l'espace de la, j'allais dire, du tableau, hein, ça c'est tout à fait clair, mais on est bien dans l'espace de la page. Hein, et ce qui est frappant également, c'est que vous voyez la manière dont, d'une certaine façon, la linéarité de l'écriture est totalement conservée, mais que l'alphabet, en revanche, a disparu. C'est-à-dire qu'on a bien des lignes. L'enjeu, c'est bien la ligne d'écriture, mais la ligne d'écriture sans alphabétisation. Et si on veut résumer ce dont il s'agit de se libérer à travers cette culture uniquement du verbal, eh bien, c'est d'un certain régime de la signification. Et il s'agit de passer de ce régime de la signification au régime de la représentation. On pourrait dire de passer d'un certain régime d'abstraction à un autre régime d'abstraction. Le premier régime d'abstraction, c'est précisément celui qui pourrait être désigné par le terme d'alphabétisation, un autre régime d'abstraction, hein, parce que la représentation n'est pas moins abstraite en un certain sens que la signification, sauf que c'est une autre modalité de l'abstraction. Et cette seconde modalité de l'abstraction étant ce que moi j'appelle l'inscription. Il s'agit au fond non plus d'alphabétiser, mais d'inscrire. Non plus de discrétiser les phonèmes énoncés à travers les signes de l'alphabet, mais il s'agit d'inscrire. Et d'inscrire quoi ? Eh bien d'inscrire précisément ce qu'il appelle la vie, dans la citation que je vous ai citée tout à l'heure, cette vie que il définit également lorsqu'il dit, je vous lis, il l'a défini comme un tapis. Ce tapis vibra-t-il, qui avait quelque chose de commun avec des décharges électriques à étincelles ramifiées, et aussi avec des spectres magnétiques, ce je ne sais quoi de tremblant, d'ardent, de fourmillant, semblable à des spasmes faits nerfs, cet arbre aux fines branches qui pouvait aussi bien être des éclatements latéraux, ce fluide tempétueux, contractile, secoué, champanisé, mais élastiquement retenu et empêché de déborder par une sorte de tension superficielle, ce nerveux écran de projection, plus énigmatique encore que les visions qui s'y posaient, je ne saurais jamais en parler convenablement. Donc on voit bien que il s'agit au fond de parler de cette vie, de ce continuum qui finalement impressionne continuellement l'expérience. Alors, pour cela, dit-il, donc il faut se déplacer, passer de la pratique du poète, de l'écriture, à la pratique du dessin. Et pourquoi ? Alors je vous relis cette phrase que je vous ai déjà lue tout à l'heure. « Plus que m'exprimer davantage grâce au dessin, je voulais, je crois, imprimer le monde en moi, autrement et plus fortement, pour faire contrepoids à une transcendance qui ne s'accomplissait pas, en partie par provocation. » Donc, on comprend bien que cette transcendance qui ne s'accomplit pas, c'est celle de l'écriture, alphabétique, et qu'il s'agit précisément, disons, de passer de ce schéma de la transcendance abstraite de l'écriture alphabétique à à autre chose, hein, qui serait un mode de subjectivation dont le fil conducteur serait au fond l'impression, hein, ou l'inscription, se laisser inscrire par, hein, ou être impressionné par, hein, c'est-à-dire au fond assumer, hein, ce film que nous sommes, d'une certaine façon. Et on voit déjà à travers cette idée finalement d'une passivité, hein, imprimer le monde en moi, hein, il y a l'idée finalement de devenir un support passif. Hein, c'est-à-dire qu'on voit que à travers cette redéfinition, hein, de la subjectivation grâce à la pratique, l'enjeu c'est de passer d'une activité à une passivité. C'est évidemment quelque chose d'important. Pour cela, le propos, il n'y a aucune espèce de croyance suivant laquelle on pourrait tout simplement, quitter le plan de l'écriture alphabétique sans libérer magiquement par une simple, accomplissement de désir. Pas du tout. Hein. Il dit bien d'ailleurs que tout le processus commence, hein, avec un mot. Hein, tout le processus commence précisément. Hein, il dit l'image, hein, puisque ça, au fond c'est un processus de production d'image, l'image est suscitée par une réflexion, un mot, une abstraction. C'est-à-dire en fait, tout commence, hein, par ce mot, par cet alphabet. Hein, donc on commence par ce plan de subjectivation, premier, hein, celui qui constitue le sujet moderne, et il s'agit de lui soutirer, en quelque sorte, un autre niveau d'abstraction, une autre forme d'abstraction. Hein. Donc on ne passe pas comme ça, parce qu'on l'a décidé, de la signification à la représentation. Pour cela, il faut repartir de ce premier plan d'abstraction qui est l'écriture alphabétique. Il faut en repartir et, nous explique Michaud d'une certaine façon, hein, il faut arriver à à produire à partir de cette, de l'intimité du sens, l'extériorité d'une représentation, hein, et l'extériorité d'un espace. Au fond, il faudra arriver à décapsuler, hein, le sens qui est, produit automatiquement par l'écriture alphabétique, hein, la manière au fond dont elle boucle la signification sur elle-même. Il s'agit de produire l'espace de la représentation. Au fond, ce qui est important aussi, c'est la façon dont Michaud définit ce qui est à gagner comme un tapis, comme une ligne, comme un espace, hein, ce que j'appelais peut-être tout à l'heure un écart ou une distance. Et pour ce faire, nous dit Michaud, il faut arriver à ressusciter en soi-même, à susciter en soi-même un plan de subjectivation seconde, hein, c'est-à-dire il faut arriver à refaire surgir, hein, derrière l'instance volontaire et active du moi, une instance passive, hein, une instance mimétique, hein, une instance peut-être refoulée, peut-être simplement latente, hein, en tout cas le terme de refoulement n'apparaît pas. Hein. Il faut arriver à faire surgir derrière le moi, hein, qui commande, si je puis dire, mais qui est commandé aussi bien, hein, par cette écriture alphabétique, un autre moi, hein, un moi passif, hein, un moi qui va servir en réalité de moyen, d'instrument pour l'opération d'inscription. Ce moi, en réalité, c'est le corps. Ce moi qu'il s'agit de refaire apparaître, hein, il est ce moi passif, hein, cette surface, hein, impressionnable. Eh bien, c'est le corps, c'est ce qu'ils appellent, en l'occurrence, dans le cas du dessin, ce qu'ils appellent la main vide. Et il dit, par exemple, hein, pour vous donner une image avant d'analyser plus avant, hein, de ce qui est en jeu, hein, il dit, au fond, « Il s'agit au fond de ressusciter en soi-même l'équivalent de ces, il parle de 20 gestes que l'on fait au téléphone. Comme si, et ces 20 gestes, cette espèce de corps latent, comme si l'on formait constamment en soi un visage fluide, idéalement plastique et malléable, qui se formerait et se déformerait selon les idées et les impressions, automatiquement en une instantanée synthèse, à longueur de journée, et en quelque sorte cinématographiquement. Donc vous voyez, on a véritablement là l'idée que sous le moi actif, derrière le moi actif, latent, disons, on pourrait dire coupé d'expression, mais éventuellement, disons, capable d'être réactivé, il y a cet écran de projection, il y a ce second visage, il y a cette espèce de corps qui n'est pas conduit par l'instinct de domination et de maîtrise, mais il y a ce corps qui est un support d'inscription, qui est un support passif, et qui néanmoins est cet écran de projection nerveux, ce tapis vibratile, etc. Et pour cela, Michaud ne passe pas par, disons, il n'y a pas 36 solutions. La solution qu'a trouvé Michaud, qui n'est pas une solution, qui n'est pas présentée par lui comme la solution, mais qui est sa solution, et je crois qu'on ne peut pas du tout en faire l'économie, c'est la drogue. C'est-à-dire que véritablement, cette instance seconde, il s'agit de la provoquer, comme il le dit bien, par provocation. Il s'agit de provoquer en soi un corps oublié, et pour cela, il n'y a aucune autre solution que, d'une certaine façon, la transgression, voire la destruction de la construction du corps prescrite par la norme, que la construction du corps qui est imposée d'une certaine façon par un certain mode de comportement ou de fonctionnement social, intentionnel, finalisé, commandé par des impératifs de production, de communication, de relations, etc., etc. Et je pense que la drogue est fondamentale, c'est-à-dire que au cœur de la pratique de Michaud, il y a la drogue. La drogue, alors vous me direz, ensuite on pourra en reparler, mais je pense qu'au cœur de la pratique, il y a bien toujours quelque chose qui est de l'ordre de la drogue. Voilà. Et je pense que ça, avoir le courage, mais je pense que c'est vrai, c'est avoir le courage, de reconnaître ce fait, c'est-à-dire que dans la pratique artistique, il y a toujours un élément qui est analogue à la drogue.
Juste une parenthèse, c'est comme Michaud emploie la drogue de façon très encadrée, mais finit par s'en détacher. C'est-à-dire qu'il finit par dire, il s'aperçoit qu'il n'en avait pas besoin. Non pas parce qu'il n'en avait pas besoin concrètement, mais simplement, finalement, il dit que... je sais pas comment dire ça. La drogue peut rester métaphorique. Ou elle peut rester...
Alors, voilà, merci Florence, c'est entièrement vrai. Voilà. Benjamin a écrit sur cette question, parce que Benjamin aussi a fait des expériences avec le hashish, beaucoup. Et il a réalisé au bout d'un certain temps qu'en fait, pour lui, par exemple, la déambulation, la dérive, on pourrait dire, où la lecture avait exactement le même type de fonction potentiellement que la drogue. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut une méthode, et que cette méthode, c'est aussi une méthode qui passe par une certaine violence. Et que, au fond, dans l'usage de la drogue par Michaud, il y a cette reconnaissance par lui ce corps intentionnel, ce corps finalisé, ce corps social, ou cette main active de l'écriture alphabétique, qu'il s'agit d'une certaine façon de trahir, qu'il s'agit de vider, eh bien, on ne peut pas le faire simplement parce qu'on le veut, parce qu'on a l'idée, le projet, etc., l'intention de le faire. Il faut véritablement une méthode de destruction, de cette construction et de cette espèce d'organisation technique du corps par les normes sociales. Alors, entièrement d'accord avec vous, Michaud ensuite va d'une part, il va jamais se droguer de façon sauvage, il va toujours se droguer sous la conduite de médecins et de façon extrêmement méthodique et protocolaire, d'une certaine façon, et puis il va quitter la drogue parce qu'il comprend. comprendra qu'en fait, il a en lui d'autres registres que la drogue pour obtenir le même effet. Mais ce qui me semble néanmoins important, c'est de noter que dans la pratique, et c'est important si on veut définir effectivement cette subjectivité par opposition à l'intériorité pastorale ou chrétienne, eh bien, il y a un moment où véritablement, il y a un travail sur le corps, qui est un travail de déconstruction. Et donc, via la drogue qui peut être remplacée donc, par différents types de protocoles, de méthodes, de moyens, etc. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que dans ce que disait Figarella, il y avait l'idée du protocole qui était fondamentale. Et lorsqu'on a écouté l'autre jour Alexander, vous avez vu que c'était des dizaines d'heures de travail. C'est quelqu'un qui se lève quasiment tous les matins à 4 heures du matin, qui a une discipline de vie monastique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur l'alimentation, il en a parlé, il ne déjeune jamais à midi pour des raisons de travail, de pratique, il dort extrêmement peu, et il y a véritablement un travail sur le corps, un travail physique, c'est-à-dire que ces opérations de mémorisation sont conditionnées par une espèce de préparation du corps. Et je crois qu'au fond, ça fait partie de ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que s'il s'agit bien d'un travail de désubjectivation, resubjectivation, à partir de ce mode de subjectivation qui est intimé par l'écriture alphabétique, il passe par un travail sur le corps. Donc ce qui apparaît cet usage de la drogue, c'est effectivement ce qu'il appelle ce visage fluide, idéalement plastique et malléable, ce qu'il appelle également ce tapis vibratile, ce qu'il appelle cet écran de projection, ce nerveux écran de projection, ce que moi j'appelle le plan de subjectivation second, c'est-à-dire un plan transcendantal de subjectivation à partir duquel, effectivement, il va pouvoir se produire le dessin lui-même. C'est-à-dire que le dessin, l'opération mimétique finalisée qu'est le dessin, est conditionnée en quelque sorte par une première mimésis qui demeure transcendantale, qui est cette mimésis, qui est cette production du visage ou de l'écran de projection ou du tapis vibratile à partir de la main active qui écrit les mots. Donc vous voyez cette espèce de progressif déconstitution jusqu'au moment où va apparaître effectivement le déchaînement de la main vide, de cette main qui est animée par ce tapis vibratile, par cet écran de projection, par ce second visage, c'est-à-dire par ce second corps, ce plan de subjectivation seconde, et qui est cette main déchaînée qui va produire de nouveaux rythmes, de nouvelles vitesses, dont qu'il décrit, par exemple, je peux vous... je peux vous lire, par exemple, cette chose-là. Plus qu'avant, il y avait des chocs, des montées, des traversées, des dégringolades, et comme des courses faisant par là même un espace différent, un espace éparpillé, inconnu, un espace à espace, à perspective superposée, intercalée, polyphonique, espace que depuis longtemps, autant que les formes, j'avais espéré voir un jour, voir disloquer, défaire, diviser, mettre en lambeaux, soulever, enivrer. Ou encore, dans un non sonore vrombissement, il y avait accentuation, augmentation, il y avait poussée, il y avait intensité, il y avait énormité, il y avait paroxysme, il y avait dislocation, il y avait surstimulation, et comme par l'effet de quantité de minuscules sabotages, il y avait désorganisation, avec toujours cependant, par derrière, une organisation surtendue, prête à péter, mais en attendant, invraisemblablement actuelle et à son affaire, c'est cette main vide toujours, démonstration prodigieuse, vie du mental qui ne se peut arrêter. Ou encore... dans cette calligraphie, art du temps et expression du trajet et de la course, il parle de la calligraphie chinoise, mais en réalité, il parle aussi de son dessin. C'est la spontanéité qui peut aller presque jusqu'à l'éclatement, ne plus imiter la nature, la signifier par des traits, des élans, assaise de l'immédiat, de l'éclair. Voilà. Et dernière citation, hein, la main doit être vide afin de ne pas faire obstacle à l'influx qui lui est communiqué, doit être prête à la moindre impulsion comme à la plus violente, support d'effluves d'influx. Donc vous voyez qu'au fond, hein, cette pratique a pour enjeu d'actualiser cet écran de projection second, hein, ce corps passif, cette main vide, hein, ce visage fluide, etc. Hein, là, je reprends toutes les expressions de Michaud, hein, d'impressionner cet influx, hein, d'impressionner cette vie, ce continuum, cette temporalité, hein, complètement déchaînée d'une certaine façon de la chronologie du discours, hein, et elle impressionne à ce moment-là, hein, elle inscrit, un autre régime, hein, un autre régime, j'allais dire, de représentation, c'est un régime de représentation qui n'est plus articulé par la signification. Pour moi, on a là véritablement, si je puis dire, hein, le paradigme de ce que c'est qu'une pratique artistique. Avec ces trois plans, on part du mode de subjectivation normé, qui est l'écriture alphabétique, des subjectivations, surexion du plan de subjectivation seconde, resubjectivation, dessin de la main vide, hein, tout ça pour arriver à produire, hein, cette inscription qui n'est plus, hein, une inscription alphabétique, qui est l'inscription du dessin. Et je crois que ce qui est important, hein, dans cette pratique, hein, c'est évidemment qu'elle est totalement expérimentale. Ça, c'est très important comme mot, parce que je crois que dans cette question d'un mode de subjectivation critique, le mot d'expérimentation intervient un peu nécessairement. Et que, ultimement, l'enjeu de tout ça, c'est bien un enjeu d'émancipation. C'est-à-dire, il s'agit bien de sortir d'une certaine formule du corps, hein, et d'une certaine formule de l'écriture, c'est-à-dire d'une certaine formule du rapport entre le discours et l'écriture, hein, pour aboutir à l'accès, hein, à un nouveau mode, hein, d'existence. Hein, il s'agit quand même de ça, hein, ultimement, hein, et d'une existence émancipée, hein, d'un certain nombre de normes que l'écriture alphabétique vient d'une certaine façon, pas seulement emblématiser, mais dont elle est le médium, hein, par excellence. Voilà. Donc, j'avais envie de vous rappeler ça, uniquement pour arriver à ce qu'on partage une espèce de modèle de pratique artistique, j'allais dire une espèce de référence commune, et pour qu'à partir de là, on puisse, j'allais dire, reposer les questions qu'on se posait, par exemple, de se demander en quoi cette expérience de Michaud peut apparaître comme paradigmatique, et en quoi, alors question que là, je n'ai pas abordée, mais que j'ai abordée auparavant et sur laquelle il faudrait revenir, hein, en quoi, effectivement, ce plan de subjectivation second, il est collectif, hein, parce que d'une certaine façon, hein, ce qu'il s'agit quand même de libérer, hein, et c'est ça qui est intéressant, c'est il est passif, mais il est technique. D'une certaine façon, la manière dont le support cet écran de projection, ce nerveux écran de projection qui anime la vie, il l'anime d'une manière technique, hein, c'est-à-dire c'est une autre techné qui s'empare de la main, c'est-à-dire c'est une techné qui n'est plus conduite par une intention finalisée, mais c'est une techné quand même. Hein. Et évidemment, pour moi, ça renvoie à l'idée que, d'une certaine façon, les technailles, on va dire, sont à réfléchir en amont de la constitution même de la subjectivité, c'est-à-dire que la subjectivité est armée, hein, de bout en bout, de part en part, à partir du moment où, je veux dire, avant même qu'il soit question d'individuation et d'individualisation, hein, on a cette question de la techné. Hein, donc, voilà. Mais ça c'est peut-être un problème qu'on posera dans un deuxième temps. Voilà, moi je vous laisse maintenant la parole à partir de ce rappel. Question, oui.
Oui, j'ai pas bien compris comment est-ce que ce deuxième plan en fait de collectif qui supporte la désubjectivation peut être en fait transcendantale, enfin donc dans une forme de transcendantalité phénoménale, j'imagine, sans que ce soit politique. Étant donné que c'est collectif. Sinon, et à moins que, effectivement, ce soit à ce moment-là une forme de politique sous la forme de ne l'être pas, quoi, qui serait proprement hegelienne.
Non.
Non.
Si, bien sûr. Précisément, alors là, on en vient à la question de la technique, c'est que ce qui caractérise, hein, ce qui caractérise les technailles, c'est qu'elles sont par définition collectives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la première forme de manifestation du collectif en nous, c'est la technique. Hein, c'est pas l'organisation sociale. Hein, c'est en tant que, j'allais dire, animal technique, c'est vrai que nous sommes des animaux politiques, hein, mais nous sommes surtout avant des animaux techniques. Hein, c'est-à-dire des animaux qui sont armés, j'allais dire, quasiment à leur corps défendant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont armés par définition d'un ensemble de technailles qui sont les technologies pulsionnelles qu'on observe dans la construction du narcissisme, qui sont ensuite les techniques du corps qui sont transmises par l'éducation, qui sont ensuite bon, évidemment les techniques de production et les techniques de mémorisation finalement sont mises en jeu dans les activités du sujet, hein. Mais de part en part nous sommes armés par des techniques et ces techniques ce sont des productions collectives, ce sont des productions collective et historique. Et donc, j'allais dire que, bien sûr, il y a cette définition du sujet humain comme animal politique, mais cet animal, c'est d'abord un animal technique, et c'est pour ça qu'il est collectif. Et je pense qu'il faut pas confondre l'organisation technique du sujet et l'organisation politique de la société, et qu'il y a du collectif au niveau de l'organisation technique du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est différente, hein. Je ne dis pas qu'elle est sans rapport, hein, mais qui est différente de l'organisation politique de la société. Vous comprenez, hein, ce que j'entends par collectif et pourquoi je ne dis pas que le collectif est automatiquement politique. Vous voyez la distinction?
Oui. Mais ce que je ne comprends pas bien à ce moment-là, c'est l'articulation que vous faites entre cette technique qui, pour moi, est renvoyée à quelque chose de facultataire et son contenu.
Et pourquoi vous renvoyez cette technique à quelque chose de facultataire?
Parce qu'il me semble que l'organisation du sujet dans ses modalités de subjectivation ou de désubjectivation met en jeu en fait des facultés et que dans cette technique en fait ce sont des facultés qui sont en jeu.
Si on reprend l'exemple de Foucault et la manière dont grâce à la drogue il va en fait, la surrection de cette instance de subjectivation seconde, hein, cet écran de projection. Eh bien, justement, là, il va avoir l'usage de la drogue, c'est précisément pour quitter la sphère de la réflexion, donc effectivement abandonner, on va dire, l'oripeau du sujet facultataire, d'une certaine façon, et pour libérer le corps animé par des techniques du corps, hein, c'est-à-dire cette main qui a appris à dessiner tout simplement à l'école. Hein, c'est ça, au fond, qui travaille. Hein. C'est la technique scolaire, c'est la technique sociale, c'est la main, c'est l'enfant de 2 ans qui a appris à dessiner, hein, et il s'agit de libérer, hein, cette technique collective du dessin qui est parfaitement historique, qui est le dessin qu'on apprenait aux enfants en 1890 à l'école, quand Michaud allait à l'école. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il s'agit de... et cette technique-là, elle n'a rien de facultataire. Hein, c'est la technique au sens parfaitement, j'allais dire, historique, concret du terme. Hein, parce qu'au fond, nous sommes des corps armés par des techniques du corps qui sont parfaitement concrètes, parfaitement, j'allais dire, opératoires, et tellement opératoires, évidemment, que nous n'en savons strictement rien.
Même si je peux ajouter quelque chose à vos mots, anthropologiquement, il y a tout un courant d'anthropologie philosophique qui place la production d'objets à la même échelle que la production de langage, et ce sont des objets qui permettent le passage d'une génération à l'autre et la continuité d'un récit sociétal. Donc même à ce niveau-là de la production d'outils dans les sociétés, je sais pas, néolithiques, il y a déjà ces rapports à la technique qui n'est pas forcément politique, mmh. mais qui est quand même ethnologique en quelque sorte, qui est culturel, et pas, duquel et, il sortirait tôt ou tard une politique, peut-être, mais qui n'est pas a priori politique.
Et par exemple, réfléchissez à la manière dont la transmission de l'alphabet et de l'écriture alphabétique est portée par d'abord l'apprentissage du bien écrire par l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une normativité de la lecture, hein, une normativité de l'apprentissage de l'alphabet qui est d'abord la norme du plein et du délié. Hein. Alors, du plein et du délié, c'est plus pour vous évidemment, mais vous avez eu aussi d'autres normes. Hein. On ne vous a pas obligé à faire des bâtons, mais on vous a obligé forcément à faire d'autres choses, hein, l'équivalent. Et sans cette construction du corps, il n'y aurait pas cet impératif de l'alphabet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la construction intellectuelle du déchiffrement alphabétique des signes écrits, elle est portée d'abord par une construction du corps à travers l'exercice du plein et du délié. Hein. Et si on n'en revient pas là, on ne comprend pas pourquoi... cette norme de l'alphabet, on arrive à la, en une génération, comme l'a fait la France de la Troisième République, on est arrivé à passer une génération, hein, en 17 ans, on est arrivé à alphabétiser tous les Français d'une même génération. Hein, et on est arrivé à le faire par le dressage des corps, évidemment, hein, et pas par l'abstraction alphabétique. Ça, c'est très important, ça.
Moi j'ai une question, si le plan de subjectivation second est collectif, comment alors est-ce qu'il peut être source d'émancipation? C'est quoi? C'est comme s'il y avait deux collectifs, il y a le collectif du sujet moderne dans lequel il est immergé, il y a un deuxième collectif, mais c'est quoi ce collectif? Et en quoi est-ce qu'il ne serait pas normé aussi?
Alors qu'est-ce que vous avez... Je ne suis pas sûre de bien comprendre.
En fait... le collectif du sujet moderne, c'est nous. Voilà. Mais à la fin, vous dites le plan de subjectivation second est collectif, hein, parce que bien qu'il soit passif, il est technique. Mais s'il est collectif, lui aussi, il est, normé. Et donc, je ne comprends pas en fait en quoi il peut y avoir libération ou émancipation.
Il y a émancipation parce qu'il y a déplacement. C'est-à-dire, ce qui est émancipateur, c'est pas la passivité en tant que telle qui est une émancipation. Hein. Et c'est pourquoi il y a deux mimésis, d'une façon. Hein. Il faut une sorte de première mimésis, d'un premier décrochement qui est la production de cette passivité technique, hein, techniquement armée, pour qu'ensuite, s'il y a la production du dessin, véritablement, ou qui est le lieu de la libération, hein, c'est la production de ces espaces, hein, qui est véritablement, j'allais dire, le moment d'émancipation. Hein, c'est le moment du dessin, c'est pas le moment de la main vide. On peut dire qu'en tout cas, il y a comme ça deux niveaux. Hein. Voilà, et donc oui, rappelez-moi votre question, parce que tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire.
J'ai mal compris, mais c'est comme si... Il y avait deux collectifs, un qui serait lié à l'émancipation et l'autre, celui qui... Donc le collectif qui serait lié au premier plan de subjectivation,
oui.
Donc qui est celui qui est normé, ouais. Et le collectif qui est lié au plan de subjectivation second, qui serait lié à l'émancipation. Et
oui,
donc je ne comprends pas
ce développement. La question est très bonne. Hein. Il faut se rappeler, au fond, que... finalement, ce qu'on appelle l'écriture alphabétique et ce que Michaud lie aussi à la signification, cette culture du verbal, hein, ce que moi j'ai associé à la culture de l'intériorité, hein, chez Foucault et encore également à la question de la politique pastorale, c'est-à-dire que ce qui est transmis à travers cette norme de l'écriture alphabétique, c'est toute la tradition occidentale, hein, c'est-à-dire c'est un certain sens, hein, c'est-à-dire c'est aussi une certaine, j'allais dire, c'est d'une certaine façon de constituer le collectif abstraitement via, disons, à travers une certaine représentation de ce que c'est que la société et de ce, hein, oui, ce que je veux dire, c'est-à-dire
parler du plan de sollicitation
numéro 1, Enfin, je veux dire, celui dont on part. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que l'écriture alphabétique? Qu'est-ce que c'est que cette discrétisation alphabétique? C'est aussi une manière de nous apprendre qu'en tant qu'un sujet, on n'est jamais qu'un abstrait, d'une certaine façon, dans une société qui est elle-même, j'allais dire, on va dire, un ensemble lui-même abstrait et comptable, et dans lequel, par exemple, je suis une voix. C'est l'apprentissage de la statistique au niveau du collectif. Le second collectif, et vous avez raison, il y a bien un deuxième collectif, c'est celui, j'allais dire, des corps qui sont armés par des techniques. Et effectivement, et pour un type de constitution, j'allais dire, qui n'est pas celui de cette représentation sociale-là, c'est autre chose. Et il y a une énergie propre à ce collectif-là, qui est le collectif, j'allais dire, qui est celui des corps. Et au fond, finalement, je ne fais que reprendre une idée assez nietzschéenne, Apollon Dionysos. C'est-à-dire qu'il y a un registre de l'être ensemble, via les techniques des corps et via, par exemple, la danse, la musique, les rythmes, qui n'est pas le même que l'être ensemble qui est articulé par l'écriture, vous comprenez, et par le sens et par une certaine représentation de l'être un individuel dans la société supposé par cette écriture, cette discrétisation. Est-ce que c'est clair?
C'est clair, mais encore une fois, en quoi ce second collectif, dont je comprends en fait c'est un autre point de vue finalement, en quoi est-ce qu'il est plus... En quoi est-ce qu'il est moins normé que parce que la danse, la transe, c'est aussi normé, c'est aussi socialement normé. C'est pas du déchaînement, c'est pas la meute, etc.
Tout à fait, mais c'est exactement ce que Foucault a proposé du Ptomnématon, c'est-à-dire il dit au fond constitution, j'allais dire, d'un corpus, un devenir corpus du corps, c'est-à-dire la constitution d'une logique protocolaire de l'action. Et c'est par cette espèce de devenir, j'allais dire, effectivement, par cette espèce, on va dire, de changement de régime, passer d'un type de normativité à un autre type de normativité, qu'on libère une énergie, d'une façon, qui est une énergie qui est émancipatrice. Voilà, c'est tout. On ne sort de rien, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rêver d'une liberté, justement, comme vous disiez tout à l'heure, qui serait complètement opposée à un déterminisme. Il s'agit plutôt de jouer sur un double registre pour... j'allais dire presque topologiquement, sortir dans un autre espace, et notamment dans un autre espace collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune idée qu'on va tout d'un coup débarquer à l'air libre, on ne sait pas où, pas du tout. Il s'agit vraiment de jouer sur des registres qui sont là, qui sont coprésents, mais dans une tradition où finalement on ne fait jouer qu'un seul registre.
Mais dans cette perspective, il y a un risque qui est de fantasmer un autre mode de collectivité qui se crée de l'ordre de la fabrique de l'homme nouveau, des utopies, le schéma wagnérien, etc. Non, comment est-ce qu'on fait pour y échapper, en fait?
C'est que dans la fabrique de l'homme nouveau et dans le schéma wagnérien qu'on évoquait l'autre jour avec Éric Michaud, c'est une manière de prendre précisément ce que j'appelle le plan de subjectivation seconde comme la finalité même. C'est-à-dire, au lieu d'y voir un instrument et un médium pour une opération, une mimesis numéro 2 qui est le dessin lui-même, l'art, véritablement, on en fait la finalité.
On en fait la production elle-même.
On en fait la production elle-même.
C'est le dessin.
Voilà. Oui, c'est ça la différence. Et on fait de la transe la production. Oui.
Nous, on fait de la masse, le matériel.
On fait de la masse, ou de la masse en transe, Bérut, la production elle-même. C'est-à-dire, on inverse l'ordre. L'opéra et la manière de produire la transe collective. Voilà. Alors que là, l'objectif, c'est le dessin. C'est là où se produit l'émancipation.
En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant à propos de la drogue, de l'usage de la drogue, et qui rejoint un peu quelque part cette question de la reconstitution de la désubjectivation, ce qui est suivi d'une resubjectivation. Et en fait, c'est comme si on pouvait retracer le parcours de Foucault à travers les usages de la mescaline, en fait. Parce que moi, j'ai pensé à cette image que vous avez citée du visage, de la fluidité du visage. qui est, je trouve, une image complètement mescalinique, c'est-à-dire constitutement, structurellement mescalinique, et je pense que pas lysergique, pas opiacé, ou... je pense qu'il est constitutivement mescalinique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment Michaud arrive à trouver sa place à l'intérieur du processus lié à l'usage des drogues, pour après s'en séparer et dire j'ai trouvé une certaine instance dans cette situation d'usage qui est en quelque sorte le symptôme ou le signe qu'il y avait toujours une subjectivité ou une instance de jugement, pour le dire dans notre jargon, qui n'était pas dissoute par l'usage de la drogue. Parce que, en fait, voilà, il n'y a pas une dissolution. Et c'est ça ce qui nous renvoie à l'idée d'une technologie du soin. Je pense qu'il y a une bonne manière de le mettre en rapport à travers l'histoire de la mescaline, c'est l'usage chamanique et l'usage expérimental. Si on lit les livres de Carlos Castaneda, là on voit bien comment il y a tout un parcours qui est fait à travers l'usage de la drogue, mais qui comporte une approche qui se pose comme un a priori, comme quelque chose de transcendantal à l'intérieur de l'usage, mais qui ne l'est pas, qui est de l'ordre d'une sorte de technologie de soin qui emprunte d'un certain système de pouvoir. Donc, et qui nous renvoie à un parcours spirituel, chamanique, une certaine manière de se mettre en scène. Alors, dans le cas de Michaud, il y aurait quelque chose de complètement moderne, si j'ose dire, dans son usage de la drogue, qui est celui de la reconstitution de subjectivité, qui ne se donne pas d'avance, et qui ne va pas suivre, même si dans son expérimentation, Michaud, il se laisse orienter par des médecins ou par des thérapeutes, même par des savants, il y a quelque chose comme une recherche d'un chemin qui n'est pas tracé d'avance. Et je pense que c'est ça ce qui fait que finalement il y a quelque chose qu'on peut déceler dans le fond de l'affaire qui n'est pas de l'ordre d'un simple abandon de soi à une matière autre et qui produirait automatiquement de l'altérité.
Absolument, c'est pour ça que le terme d'expérimental est très très important. L'opération, c'est un peu ce que disait aussi Figuerella quand il disait conduire, il parlait de conduite. Il s'agit de conduire une expérience, il ne s'agit pas d'une certaine façon de simplement faire exploser une machine. Il s'agit véritablement de conduire une expérience de façon très protocolaire et méthodique pour un certain résultat qui est une certaine conquête d'espace. C'est pas du tout une opération, j'allais dire, sauvage. On n'est pas du tout dans un modèle libertaire. Ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. On est vraiment dans la question de critique et expérimentation. Et on n'est pas du tout dans une espèce de retour à des modèles libertaires, marcusiens ou je ne sais pas quoi. C'est absolument le contraire. C'est pas la désublimation créatrice. C'est absolument le contraire. Voilà, et quand même ce que je voulais juste dire aussi, parce que c'était un point que Manuel avait soulevé qui me paraît important, pourquoi finalement la pratique artistique est paradigmatique pour repenser les pratiques dans le but de recomprendre ce terme de critique dans des termes qui seraient des termes affirmatifs et positifs, c'est parce qu'il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie cet engagement individuel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'une position critique ne peut pas faire l'économie d'un engagement individuel. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est en ceci que la pratique artistique est absolument paradigmatique. C'est-à-dire que, indépendamment de toutes les critiques qu'on peut faire du sujet artiste, de la mythologie de l'artiste, de tout ce qu'on veut, il reste, disons, en tout cas dans notre construction culturelle, cette espèce de position, comme on a dit, position de l'artiste, c'est-à-dire cette espèce d'entité individuelle qui est absolument déterminante, cette position, pour qu'il y ait quelque chose comme une pratique. Et je pense, et aussi à mon sens, pour qu'il y ait quelque chose comme une critique. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi ce que Foucault dit. Foucault dit, au fond, on ne peut pas faire l'économie de l'individu, tout en critiquant la subjectivité des adolescents, tout en critiquant l'intériorité. Hein. Donc c'est dans la tension entre critique de l'intériorité, maintien de la position d'une subjectivité, on en revient là, hein, qu'on tient peut-être les deux pôles d'une position critique. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Moi,
c'est une question
que je voudrais comprendre. Mescaline.
Qui est donc les médicaments? C'est des paillotols qui peuvent être synthétisés et qui donnent la mescaline pure.
D'accord.
C'est un hallucinogène.
C'est des champignons. Hein.
Ouais. Ouais, c'est des champignons.
C'est en Amérique du Sud.
Ouais, c'est en Mexique.
En Mexique, il n'y a pas
de. D'accord.
Ou des remarques, ou des réflexions.
Peut-être que ce sera pour une prochaine séance, parce que c'est une grande question, mais au fond, je me demande ce qu'on cherche quand on se pose la question de savoir si c'est paradigmatique ou pas la pratique artistique. Mmh. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on décrit, quand on décrit là la pratique artistique, qu'on retrouve ailleurs, en fait. C'est-à-dire que dans le travail intellectuel qu'on peut faire les uns les autres, il y a des choses qui sont comme ça.
Tout à fait.
Et voilà.
Non, je veux dire pas paradigmatique. Pour nous,
pour notre travail, si on pose la question de la critique, pourquoi repartir de l'art finalement, hein? Si on pose la question de la pratique et d'une pratique en tant que constitutive de la critique. Quel est le bien fondé, hein, de la démarche consistant à repartir de l'art? Voilà. Je pense que, j'ai tendance à penser que c'est parce que c'est au niveau finalement de la théorisation, d'ailleurs même de l'art par souvent les artistes eux-mêmes, qu'on arrive à trouver les modèles descriptifs les plus précis de ce qu'on essaie de penser. Mais que ensuite ce type de fonctionnement, on le retrouve dans plein d'autres pratiques, entièrement d'accord avec vous, et notamment dans les pratiques spéculatives, hein, ou intellectuelles ou philosophiques par excellence, hein, on peut dire. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui,
Géraldine.
Ce processus de déplacement de la parole au dessin, je me demandais si Beckett il l'opérait pas en passant de l'anglais au français, et est-ce qu'on retrouve aussi cette idée de se dégager de la langue et de trouver les mots. Enfin, je me demande si c'est pas
mal. C'est très intéressant parce que
hier, justement, au cours de cet entretien, on a fini par parler de traduction, justement, hein, du passage d'une langue à une autre dans chez certains écrivains comme tout à fait équivalent du passage de l'écriture au dessin. Effectivement, hein. Puisque vous savez bien que la langue, c'est la langue, hein, c'est die Sprache, c'est aussi die Zunge, c'est-à-dire en fait c'est aussi la langue matériellement. Hein, voilà. Voilà, donc avec tout ce que ça veut dire derrière, hein, c'est-à-dire que de même que la main qui écrit et la main qui dessine, hein, je veux dire, c'est pas la même main d'une certaine façon, hein, la langue qui parle anglais et la langue qui parle français, c'est pas forcément la même langue, hein, en termes des normes supposées par l'une et l'autre. Voilà. Mais tout à fait, Géraldine, tout à fait. Tout à fait intéressant. Oui, Anna.
Et est-ce qu'on peut aussi en fait, rapprocher ça des écritures freudiennes de Certeau, où en fait, par exemple, lui, il dit que l'écriture, c'est aussi une mémoire, mais il l'oppose à l'historiographie en disant que l'histoire... Donc l'écriture part d'un événement qui a eu lieu à un moment donné, mais ce serait le processus inverse, d'essayer de construire un sens, tout en sachant que ce sens n'est jamais en adéquation avec l'événement passé, ou que l'écriture pourrait aussi jouer ce rôle de déplacement, en fait, par rapport à une chose qui...
On peut aussi bien considérer que l'écriture, d'un certain point de vue, mais alors là, bon, là ça devient tellement compliqué, hein, on peut la jouer contre l'écriture d'un autre point de vue. Hein, on peut peut jouer l'écriture contre l'historiographie. L'important, finalement, hein, vous voyez, c'est vraiment d'avoir finalement une espèce de un médium qui joue comme homonyme à lui-même, finalement. C'est-à-dire qu'on peut, au sein duquel on peut opérer une opération de coupure, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qui fonctionne sur une skise, hein, ou sur une espèce de split, hein, avec un effet d'homonymie, et qui peut fonctionner dans deux sens différents.
Je voudrais juste dire quelque chose pour clore la séance. Non, mais pas pour l'avion, pour moi, mais pour, précisément pour la
séance. Non, mais c'est ce qu'on a compris.
Non, parce que, non, mais en fait, dans le programme de dont ce séminaire fait partie, il y a compris l'indexation et la transcription des séminaires qui sont enregistrés, que l'on peut écouter. Et donc, nous, on a décidé que n'importe quelle question qui aurait resté à construire ou en suspens dans les séances, vous pouvez nous l'envoyer à l'intégrer dans le document final.
Tout à fait.
Elle sera présente et elle sera susceptible d'être répondue par Catherine ou par d'autres participants.
Absolument. Donc, oui, ça voilà. C'est très important, effectivement. Ouais, c'est que...
Venu maintenant à l'esprit, on ne l'avait pas dit encore.
Non, très important. Merci. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit. Et donc, les questions qui vous viennent et ou les, disons, les réflexions, remarques, addendum, addenda, etc., ou agenda, d'ailleurs, c'est très intéressant de les faire parvenir à Sophie, Anne-Sophie, je crois. Hein,
oui, je pense que c'est Anne-Sophie qui
pour qu'on l'intègre.
Sinon, c'est moi qui peux le faire également. Si je peux vous laisser un...
Ou à Manuel.
Je peux vous laisser mon email. Et comme ça, je compilerai tout à l'heure d'indexer, parce que oui, c'est pas toujours plus direct. Ce n'est pas suffisant que...
Bon.
Donc, si vous voulez, je vous le renvoie avec le prochain envoi de...
Voilà, avec le prochain séminaire. Dion Doulis, je ne sais, je pense que Vincent Puig a son titre. Hein, je vais demander à Vincent qu'il l'envoie vite la prochaine séance. Et donc, je vous dis à vendredi prochain.
Merci.